Exposition biblique. Chapitre 14. Les dons qui édifient et profitent à l'Église. Les dons qui édifient et l'ordre du culte. L'apôtre Paul nous a-t-il exhorté à désirer la prophétie particulièrement parmi les dons du Saint-Esprit? Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 1 à 5. En regardant la Bible, il est exact que l'apôtre Paul nous a exhortés à désirer la prophétie particulièrement parmi les dons du Saint-Esprit. Il n'a pas nié les dons, mais a enseigné qu'il devrait s'agir d'une vie consistante à témoigner de la parole de Dieu qui apporte un bénéfice à l'Église. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1, Paul dit ceci: « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Dans cette parole, Paul dit d'abord d'établir l'amour comme la norme la plus importante, puis il exhorte à désirer les dons spirituels, mais surtout à rechercher la prophétie. La raison pour laquelle Paul a mis l'accent sur la prophétie est que la prophétie apporte un bénéfice direct à la communauté de l'Église. Il l'explique ainsi dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » C'est-à-dire qu'il explique que la prophétie joue le rôle d'édifier l'Église, d'exhorter les saints et de consoler les saints. De plus, Paul parle de la différence en comparant les langues et la prophétie. Il dit que les langues peuvent être un bénéfice pour l'individu, mais que la prophétie est un don qui édifie l'Église tout entière. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 4. Cependant, le point important dans l'enseignement de Paul est qu'il a mis l'accent sur l'amour avant la prophétie. Après avoir dit dans 1 Épître aux Corinthiens 13 que l'amour est plus important que tous les dons, il explique ensuite le principe de l'utilisation des dons. L'enseignement de Paul est le suivant: la chose la plus importante est l'amour, et les dons du Saint-Esprit peuvent être désirés. Même parmi eux, il a exhorté à désirer le don qui édifie l'Église, en particulier la prophétie. Et tous les dons doivent être utilisés pour l'ordre et le bénéfice de la communauté. Par conséquent, en regardant la Bible, il est clair que Paul nous a exhortés à désirer la prophétie particulièrement parmi les dons du Saint-Esprit. Cependant, au centre de tout cela se trouvait le fait que la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui apporte le salut aux âmes, doit être prêchée. Paul déclare clairement: rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. L'amour, établi comme la norme directrice au chapitre 13, est la norme qui fait que tous les dons fonctionnent comme des outils. Les langues peuvent apporter un bénéfice à l'individu, mais la prophétie bâtit l'édification de l'Église. Lorsqu'il est vu à travers le prisme de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le ministère du Saint-Esprit ne consiste pas à amplifier les expériences personnelles, mais c'est un ministère qui aide la communauté à comprendre clairement l'Évangile du salut déjà accompli en témoignant du baptême de Jésus, de la croix et de l'Évangile de l'Esprit. Expliquer et témoigner de la parole de Dieu n'est-il pas ce qui apporte le plus grand bénéfice aux saints? Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 6 à 12. Selon l'enseignement de la Bible, on peut dire que le fait d'expliquer et de témoigner de la parole de Dieu apporte un très grand bénéfice aux saints. C'est parce que la parole de Dieu est le fondement le plus important qui édifie la foi et la fait grandir. L'apôtre Paul dit ceci dans 2e Épître à Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Cette parole montre que la parole de Dieu n'est pas un simple texte religieux, mais qu'elle a le pouvoir de redresser la foi d'une personne et de changer sa vie. Lorsqu'ils comprennent et acceptent la parole, les saints en viennent à grandir dans leur foi. De plus, dans Actes chapitre 20, verset 32, Paul dit ceci aux anciens de l'église d'Éphèse « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. » Ici, Paul dit que la parole prophétique de Dieu devient la puissance qui édifie la foi des saints. Dans l'Église primitive également, l'œuvre consistant à témoigner et à expliquer la parole de l'Évangile de Dieu était un ministère très important. Actes chapitre 2, verset 42, expliquant la vie de foi de l'Église primitive, rapporte « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». Les saints se consacraient à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire à l'œuvre d'entendre et d'apprendre la parole de Dieu. De plus, dans Néhémie 8, il est écrit que lorsque la parole de Dieu était lue et que son sens était expliqué et interprété, le peuple en venait à comprendre la parole. Cela montre le fait qu'il est important non seulement de lire simplement la parole, mais de l'expliquer afin qu'elle puisse être comprise. Par conséquent, l'œuvre consistant à expliquer et à témoigner correctement de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de Dieu au sein de l'Église apporte un bénéfice à tous. Premièrement, elle édifie correctement la foi des croyants. Deuxièmement, elle leur permet de discerner entre la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et le mensonge. Troisièmement, elle les amène à changer la direction de leur vie pour être centrés sur Dieu. Quatrièmement, elle édifie sainement l'Église de Dieu. En fin de compte, au centre de la foi dont parle la Bible, les saints acquièrent toujours une force nouvelle lorsque la parole de Dieu est témoignée. Lorsque la parole de Dieu est correctement comprise et témoignée, les saints en viennent à grandir dans la foi. Et l'Église devient également plus solide. Par conséquent, l'œuvre consistant à expliquer et à témoigner de la parole de Dieu peut être considérée comme un ministère important qui apporte le plus grand bénéfice aux saints. Paul introduit l'imagerie des instruments de musique et du langage humain. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? L'essentiel est simple. Des mots incompréhensibles ne peuvent pas transmettre la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas un mystère à cacher dans l'ambiguïté, mais la parole de l'Évangile qui doit être proclamée et comprise. C'est exactement la raison pour laquelle Paul a dit aux croyants de désirer les dons, mais par-dessus tout, de s'efforcer de prophétiser. Tous les dons spirituels ne devraient-ils pas être quelque chose qui apporte un bénéfice aux autres? C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais ayez dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 13 à 19. L'apôtre Paul dit ceci dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Cette parole explique très clairement le but pour lequel les dons du Saint-Esprit sont donnés. Les dons ne sont pas destinés à élever l'individu, mais au bénéfice de la communauté. Dieu a donné aux saints différents dons afin qu'ils puissent se servir les uns les autres et édifier l'Église. De plus, 1er Épître de Pierre, chapitre 4, verset 10, parle du même principe. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ici, il est enseigné qu'un don est un don de grâce confié par Dieu et la personne qui l'a reçu doit l'utiliser pour servir les autres comme un intendant. Par conséquent, la Bible présente des normes importantes lors de l'utilisation des dons. Premièrement, on doit considérer si cela accomplit les devoirs confiés dans l'Église de Dieu. Deuxièmement, on doit considérer si cela devient un bénéfice pour les autres. Troisièmement, on doit examiner si c'est utilisé dans la foi. En particulier, l'apôtre Paul dit dans 1 Épître aux Corinthiens 13 que peu importe la grandeur d'un don, s'il est utilisé sans amour, il n'a aucune signification. Cela signifie que ce n'est que lorsqu'un don est utilisé pour le bénéfice de la communauté et dans l'amour qu'il atteint le but prévu par Dieu. En fin de compte, le principe dont parle la Bible est clair. Tous les dons donnés par Dieu doivent être utilisés non pas pour soi-même, mais pour édifier les autres et apporter un bénéfice à la communauté. L'utilisation des dons de cette manière devient le moyen d'édifier sainement l'Église et de rendre gloire à Dieu. Paul n'interdit pas de parler en langue. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Le problème n'est pas le don des langues lui-même, mais la façon dont il est utilisé au sein de la communauté. Les langues sans interprétation pourraient être utiles pour la prière personnelle, mais dans le culte public, l'interprétation est essentielle. Paul rend cela clair, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Ce n'est pas limiter le ministère du Saint-Esprit, mais une norme pour protéger la capacité communicative de l'Évangile. Ne serait-il pas bénéfique pour les croyants nés de nouveau de servir avec la sagesse et la foi de Dieu au sein de l'Église ? Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent, et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 20 à 25. Selon les enseignements de la Bible, il est très bénéfique pour les croyants nés de nouveau de servir avec la sagesse et la foi de Dieu au sein de l'Église. C'est parce que Dieu n'a pas laissé les saints simplement comme des êtres rassemblés, mais a appelé chaque personne à se servir mutuellement et à édifier l'Église avec la foi et les dons. L'apôtre Paul explique le but pour lequel Dieu a placé divers offices et ministères au sein de l'Église dans Éphésiens chapitre 4, verset 12 ainsi. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Cette parole montre que les saints sont appelés à jouer le rôle d'édifier l'Église à travers l'œuvre de service. De plus, 1 Épître de Pierre, chapitre 4, verset 10 dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les dons et la foi donnés par Dieu ne sont pas pour la vantardise personnelle, mais pour se servir les uns les autres et édifier la communauté. Il y a une norme importante lorsqu'une personne née de nouveau sert au sein de l'Église. C'est le service accompli avec la sagesse et la foi de Dieu. Lors d'un service selon la parole et la foi de Dieu, et non selon les pensées humaines ou sa propre volonté, ce service apporte un véritable bénéfice à l'Église. De plus, un tel service porte plusieurs fruits importants. Premièrement, la communauté de l'Église est édifiée plus solidement. Deuxièmement, les saints s'entraident et grandissent dans la foi. Troisièmement, la gloire est rendue à Dieu. Même dans l'Église primitive, les saints ne participèrent pas simplement au culte, mais se servaient les uns les autres et édifiaient la communauté. En regardant les récits des Actes, nous pouvons voir l'apparence des saints s'aidant et se servant les uns les autres, et l'Église s'édifiant plus fortement. En fin de compte, pour les croyants nés de nouveau, servir avec la sagesse et la foi de Dieu au sein de l'Église est une question très importante qui édifie l'Église et apporte un bénéfice aux saints. Dieu a donné à chaque personne la foi et des dons afin qu'ils puissent coopérer les uns avec les autres et édifier l'Église, qui est le corps de Christ. En citant le prophète Ésaïe, Paul montre que si les langues fonctionnent principalement comme un signe pour les non-croyants, la prophétie est un outil qui fait prendre conscience du péché et conduit à la conversion. La scène décisive est celle-ci. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est précisément le ministère du Saint-Esprit que vise l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas un ministère qui submerge par des expériences étonnantes, mais un ministère qui révèle le péché à travers la parole et fait clairement réaliser le salut de Christ, conduisant à la conversion. N'est-il pas juste que le culte que Dieu désire consiste à louer Dieu, à prier et à proclamer la volonté du Seigneur par la parole conformément à l'ordre ? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète ? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 26 à 33. Selon les enseignements de la Bible, on peut dire que le culte qui plaît à Dieu est un culte qui loue Dieu, prie et proclame la parole de Dieu avec ordre. C'est parce que le culte n'est pas une simple cérémonie religieuse, mais un saint rassemblement qui exalte Dieu et révèle la volonté de Dieu. Premièrement, au centre du culte se trouve la louange envers Dieu. Les psaumes nous exhortent à plusieurs reprises à louer Dieu. Le psaume chapitre 100, verset 2 dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence ». La louange est un élément important du culte qui reconnaît et exalte qui est Dieu. De plus, le culte inclut la prière. Les saints de l'Église primitive priaient ensemble et s'appuyaient sur Dieu chaque fois qu'ils se rassemblaient. Actes chapitre 2, verset 42, décrivant l'apparence de l'Église primitive, dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La prière est une partie importante de la communion avec Dieu pendant le culte. Et l'un des éléments les plus importants du culte est la proclamation de la parole de Dieu. Dieu révèle sa volonté à travers la parole. Dans 2e Épître à Timothée chapitre 4, verset 2, Paul exhorte « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. La proclamation de la parole est un ministère central qui édifie la foi des saints et guide l'Église correctement. En outre, la Bible souligne que le culte doit être conduit de manière ordonnée. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40, Paul dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Le culte doit également être conduit dans l'ordre et l'harmonie. Par conséquent, le culte que Dieu désire comprend plusieurs éléments importants. Premièrement, la louange qui exalte Dieu. Deuxièmement, la prière qui s'approche de Dieu. Troisièmement, la proclamation de la parole qui révèle la volonté de Dieu. Quatrièmement, un déroulement ordonné qui édifie la communauté. Un tel culte n'est pas une simple formalité, mais un culte rempli de cœur et de foi envers Dieu, et à travers ce culte, les saints en viennent à connaître Dieu plus profondément et à grandir dans la foi. Ainsi, on peut dire que le culte qui plaît à Dieu est un culte qui loue Dieu, prie et révèle la volonté de Dieu à travers la parole dans l'ordre. Paul présente le principe directeur du culte, que tout se fasse pour l'édification. Les langues doivent être parlées par deux, ou au plus trois, à tour de rôle et seulement lorsqu'il y a un interprète, et la prophétie doit également être faite par deux ou trois à tour de rôle avec discernement. La raison est claire, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. L'ordre ne s'oppose pas au ministère du Saint-Esprit, mais c'est la manière même dont le Saint-Esprit rend l'Évangile clair et compréhensible. Ne pensez-vous pas qu'il est approprié que, lors de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans l'Église, les hommes et les femmes travaillent de manière égale selon les dons reçus de Dieu ? Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 34 à 36. En regardant les enseignements de la Bible, on peut dire qu'il est approprié que les hommes et les femmes servent selon les dons reçus de Dieu lorsqu'ils accomplissent l'œuvre de Dieu dans l'Église. C'est parce que Dieu a créé les humains en tant qu'hommes et femmes, et même au sein de l'Église, il a donné des dons à chaque saint afin qu'ils puissent édifier l'Église ensemble. Premièrement, la Bible dit que devant Dieu, les hommes et les femmes ont un statut égal dans la grâce du salut. Dans Galates chapitre 3, verset 28, l'apôtre Paul dit ceci : « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Cette parole montre le fait qu'en Christ, tous les saints forment une communauté qui est devenue une dans la même foi. De plus, les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés seulement aux hommes, mais à tous les saints. Actes chapitre 2, versets 17 à 18 dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles le prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Cela indique le fait que Dieu donne l'œuvre et les dons du Saint-Esprit aux hommes comme aux femmes. En fait, même dans l'Église primitive, il y avait des femmes qui étaient utilisées par Dieu. Des figures telles que Priscille, Phœbé et les quatre filles de Philippe apparaissent dans la Bible. Et elles ont également joué un rôle en aidant l'œuvre de Dieu au sein de l'Église. De plus, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 10 dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » La norme importante ici n'est pas la différence entre les hommes et les femmes, mais la façon dont on utilise le don reçu de Dieu. Par conséquent, lors de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans l'Église, ce qui est important, c'est de servir la communauté avec le don et la foi donnée par Dieu. Dieu a donné divers dons à de nombreux saints, afin qu'ils puissent coopérer les uns avec les autres et édifier l'Église. En fin de compte, l'Église n'est pas bâtie par la capacité d'une seule personne, mais c'est une communauté bâtie lorsque des hommes et des femmes, divers saints, servent ensemble selon les dons reçus de Dieu. Dans une telle coopération, l'Église est bâtie plus sainement et la gloire est rendue à Dieu. Ce passage traite de l'ordre du culte public dans un contexte culturel et situationnel spécifique. Le point n'est pas une structure hiérarchique des sexes, mais le principe selon lequel les paroles causant du désordre dans les rassemblements publics doivent être soigneusement gouvernées. L'Évangile n'existe pas pour réduire quiconque au silence, mais il existe pour que chacun puisse être édifié dans la compréhension. N'est-il pas juste d'utiliser tous les dons de manière appropriée, mais de le faire selon l'ordre ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, première épître aux Corinthiens, chapitre 14, versets 37 à 40. Selon les enseignements de la Bible, il est juste que tous les dons soient utilisés de manière appropriée et utilisés dans l'ordre. C'est parce que le but pour lequel Dieu a donné les dons du Saint-Esprit à l'Église n'est pas de créer la confusion, mais d'édifier l'Église et d'apporter un bénéfice à la communauté. L'apôtre Paul explique un principe important lors de l'utilisation des dons dans 1 Épître aux Corinthiens 14. Il souligne que l'utilisation des dons n'est pas mauvaise, mais qu'elle doit être utilisée dans le but de bâtir l'édification de l'Église. Ainsi, dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 14, verset 26, il dit « Que tout se fasse pour l'édification ». De plus, Paul dit clairement que l'ordre est important lorsque les dons sont utilisés dans le culte et les rassemblements de l'Église. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, il dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas quelqu'un qui veut la confusion, mais il veut un culte et une communauté qui s'accomplissent dans la paix et l'ordre. » Paul conclut donc ainsi dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40, « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Cette parole signifie que, peu importe la qualité des dons du Saint-Esprit, ils doivent être utilisés selon une méthode et un ordre appropriés. si les dons sont utilisés d'une manière qui rivalise les uns avec les autres ou qui cause de la confusion, ils ne pourront pas apporter de bénéfice à l'Église. Par conséquent, le principe présenté par la Bible est clair. Premièrement, les dons sont de précieux cadeaux donnés par Dieu. Deuxièmement, les dons doivent être utilisés pour le bénéfice de l'Église. Troisièmement, les dons doivent être utilisés dans l'ordre et l'harmonie. Lorsque les dons sont utilisés de cette manière, l'Église est bâtie plus sainement, et les saints édifient de la foi des uns et des autres et rendent de gloire à Dieu. Ainsi, la Bible enseigne qu'utiliser tous les dons de manière appropriée et agir avec ordre est la bonne attitude. Lorsque les dons sont utilisés de cette manière, l'Église est bâtie plus sainement, et les saints édifient la foi des uns et des autres et rendent de gloire à Dieu. Ainsi, la Bible enseigne qu'utiliser tous les dons de manière appropriée et agir avec ordre est la bonne attitude. Paul déclare avec autorité « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Et puis, il conclut ce chapitre par une conclusion équilibrée. C'est de ne pas interdire de parler en langue, mais de faire toutes choses de manière appropriée et avec ordre. Cette exhortation est complète et pourtant claire. Ne supprimez pas les dons, et ne laissez pas non plus les dons devenir la cause de la confusion. C'est de ne pas interdire de parler en langue, mais de faire toutes choses de manière appropriée et avec ordre. Cette exhortation est complète et pourtant claire. Ne supprimez pas les dons, et ne laissez pas non plus les dons devenir la cause de la confusion. Première épître aux Corinthiens 14 nous demande aujourd'hui « L'œuvre du Saint-Esprit que vous désirez ardemment est-elle quelque chose qui fait s'émerveiller les gens avec des expériences étonnantes ou est-ce de leur faire comprendre la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit afin qu'en croyant au Seigneur, ils soient sauvés de tous les péchés et reçoivent le Saint-Esprit comme un don ?»